Welcome to the GAC Files, a podcast about the people, issues and ideas driving Global Affairs Canada.
Bienvenue au dossier d'AMC, un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada.
And now, introducing your host, Global Affairs Canada's Deputy Minister of International Trade, John Hannaford.
Voici votre animateur, John Hannaford, sous-ministre du Commerce international d'Affaires mondiales Canada.
Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de poursuivre une autre conversation concernant notre communauté au sein de l'AMC. Ceci est une édition de notre balado concernant une période de notre histoire assez récente et une période vraiment importante pour nous comme une communauté et comme un pays. I'm very fortunate to have with me today my colleague Chris McLennan, who is our Associate Deputy Minister of Foreign Affairs, who will be also part of this conversation and has been very intimately involved in our various efforts over the course of the last year. Chris, hi.
Hi, and bonjour tout le monde. C'est ma toute première fois que j'ai eu la chance, en fait, de faire partie de cette belle initiative de John, que je sais que John fait depuis plus qu'un an maintenant. Et quel sujet dont on va parler aujourd'hui, en fait? Comme vous savez, probablement, ça fait à peu près un an et demi depuis ma nomination comme sous-ministre délégué des Affaires étrangères. Et ma toute première réunion comme sous-ministre a été au sujet de Diamond Princess. Donc, et je dirais que, en fait, que les trois premiers mois de mon poste comme sous-ministre délégué a été complètement débordé par les questions de rapatriement. Même au point, avec la seule exception, c'était un voyage en Arabie saoudite pour le G20, où là, moi-même, j'ai risqué d'être parmi les Canadiens pris à Outre-mer. So this is a subject that, it has been completely ingrained into my memory as those first few months of coming to the DMA role in our department. And so I'm really looking forward to, at the 1 year anniversary, I guess, of the wrap up of those efforts. Really looking forward to taking part in the conversation with a couple of members who were directly involved.
Well, that's great. And as you say, we're fortunate to have a couple of colleagues here to share their memories of this quite extraordinary time. First, we have Brent Robson, who is our Director of Emergency Operations. And he's spent an awful lot of time working on consular over the course of his career, but obviously had a particularly concentrated set of experiences over the course of the last year. And we also have with us from our embassy in Morocco, Anne-Marie Spain, who is the head of consular in that mission and was directly involved in the repatriation flights that came from Rabat over the course of the last year. So thank you to both of you for joining us today. It's really, really terrific that you are taking the time. Maybe I'll start with you, Brent. I just wanted to get a sense from you, really, your memories of this period. My memory is at the outset was just how quickly things moved. We went from seeing obviously a lot of challenges in the world, but by March, we'd been issuing our travel advice and we had been very quickly called upon to respond to an unprecedented set of challenges. I just wanted you to kind of give us a sense as to what that was like for you and your team and sort of how that unfolded for you.
Well, I mean, I will certainly say it was a rather intense period. It was just to be honest, they all sort of, all the days merged together in my head. It was such an intense period of time where we were dealing with situations that we had never seen before. We were trying to onboard hundreds and hundreds of people into our emergency response in the EWRC when we didn't really have the structures in place to onboard that volume of people. We plan all the time for all these different emergencies that are happening around the world. And I chuckle a little bit because I did work a little bit in exercising in a previous job. And we always come up with these exercises where we have one or two or sometimes even three events happening. And the missions are always like, oh, that's impossible. That could never happen. And it sort of makes me smile now because we never plan to evacuate the world. And so it's really amazing when we think back on, I don't think ever anyone ever even expected that this is something that we should do, let alone could do. And it was a period of intense work. We achieved amazing things, incredible collaboration, incredible innovation that was happening. I will never say I want something like this to happen again, but it was a great experience in terms of learning what we, the department and government, can do when push comes to shove. It was an amazing period.
It certainly opens the door to a whole new set of exercises, doesn't it? Nothing's unrealistic anymore. But but I guess maybe just to expand on one point you made, one of the things that was notable to me during this period was this became a department-wide exercise. I mean, you were onboarding, as you say, a bunch of folks who don't normally do consular. They were coming from all sorts of parts of the department, wanting to help and sort of thrown into the Emergency Watch Center. And just give us a sense as to what that was like. What was the feel in the center? How did you find that you're able to direct people? Any reflections?
Yeah, when the Prime Minister made his announcement, it was literally that day our calls spiked enormously. So we do know that when the Prime Minister makes announcements, people do listen, because we absolutely saw that spike and that volume of calls and emails. And we knew instantly we didn't have the resources to deal with that. But we were also in a period where Ottawa and the Outaouais was going into lockdown. So people weren't coming to the office. And I don't think we quite wrapped our head around remote work at that point in time. So we knew that there were some resources out there. And when the call went out saying, hey, we need some help, if you are willing and available to come and help, please put your hand up. And people put their hands up. We onboarded really just on the EWRC portion of the COVID response, well over 1,000 individuals to train them up on how to take phone calls, basic consular skills and knowledge, basic emergency management skills and knowledge. And I think it's great, though, because we now have this cadre of, over 1,000 people who now have that basic knowledge and that understanding of how EM works in the department that we can now draw upon and call upon for future emergencies. But it was really intense. And the other thing that was really a lot of fun with that is we had EWRC employees who had never really taken on a supervisory role that were onboarding them, and they were putting people into groups and training them and mentoring people and coaching people. And it gave us it was an amazing opportunity for innovative solutions on how to onboard people to float to the top, and really amazing leadership skills of our colleagues who to float to the top, and perhaps they wouldn't have had that opportunity otherwise. So there was so many great things that came out of this that we're still benefiting from today.
So that's my recollection as well. is that kind of crazy initial days of kind of realizing, yeah, we've got the book on the shelf that tells us what we're supposed to do, but there's like chapters missing for what the problem is that we're facing. Maybe just one thing to think about. So, stories are many of the things that I remember about kind of the days and sometimes in the weeks that this went by, where you would just, some story would encapsulate the experience that you were having in so many ways. And I was wondering, I'll start with you, Brent, but then afterwards I'll ask Anne-Marie as well the same question. But is there a particular story that you like to retell and that you've been telling over the past year of something that was either particularly funny or particularly striking or moving that really encapsulated the experience for you?
I mean, it's a little bit less of a story, but it's something that we still talk about in the EWRC and we laugh about. And it's really how the whole COVID-19 crisis started. So if we really think back and we think back to January, we were getting into the Wuhan response at that point. And I think people know that we sent six employees from our embassy in Beijing. We sent them down to Hubei province to coordinate on the ground. And everyone was working really hard. They were working full out. But that repatriation flight, it just hadn't quite come together yet. And I think it was on about day eight, one of our colleagues in the Emergency Watch and Response Center correctly noted that while we'd all been diligently working to get 400 Canadians and PRs out of Wuhan, all that we'd really achieved so far was to add six Canadians to the city. And in the end, a flight happened a day or two later. But even before Wuhan wrapped up, we got into Diamond Princess. And that was a very, very complicated response. We worked on Diamond Princess for a few weeks. We repatriated, I think, 129 people out of Japan. And while we were still helping affected individuals in Japan, they were getting medical care. In the EWRC, we did a little bit of a mission achieved moment. That was perhaps a bit premature, because then we rolled right into the Grand Princess cruise ships in San Francisco and again jumped into action. And I distinctly remember that when the aircraft was in the air, one of our senior officials stated that, okay, we are now done with COVID evacuations. So just looking back, it's kind of funny that these were really just warm-ups for what was to come. Certainly great learning opportunities. They gave us a lot of insight as to what was to come, about a month later, or actually a couple of weeks later.
Oui, mais c'est exactement ça. Sans savoir qu'est-ce qui nous attendait par la suite, chaque événement avait l'air d'être un accomplissement irréel. Puis là, qui savait que tout de suite après, on avait encore d'autres choses à faire, puis un an plus tard même. Donc, Anne-Marie, toi, tu as eu une autre perspective au complet, bien sûr, d'être en poste. Pour toi, est-ce que toi, tu as des souvenirs en particulier qui t'ont frappé dans le moment, puis que même un an plus tard, tu en penses encore?
Définitivement, puis je dois dire que le 10 jours très intense du début de la crise, pour moi, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que c'est vraiment mémorable. Mais pour vous expliquer un peu plus mon petit moment magique, je vous mets un peu dans le contexte. On est le 14 mars, le samedi. Quelques chefs de programme sont rassemblés chez l'ambassadeur pour essayer de voir un peu comment on va répondre à la situation, parce que les Marocains commencent tranquillement à fermer des vols vers l'Europe. Et puis, on veut surtout voir comment on va gérer notre réponse à la pandémie au sein de la mission, parce que là, on commençait justement à parler de télétravail et comment on allait gérer tout ça. On se lève pour quitter, le téléphone sonne, l'ambassadrice répond. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'appelle pour lui annoncer qu'à partir de demain, les vols à destination et vers le Canada sont annulés. Alors, imaginez un peu la situation. On commence tout de suite à activer l'équipe d'intervention d'urgence et à essayer de voir comment on va gérer cette crise-là. La première étape, le lendemain, effectivement, les vols vers le Canada, mais l'ensemble des vols sont suspendus. Et puis, on nous annonce que nous avons 4 jours pour organiser des vols spéciaux vers nos destinations et que c'est les ambassades qui doivent organiser ces vols spéciaux-là. Alors, je vous imaginez un petit peu la pression. La première chose qu'on tente de faire, c'est de faire en sorte que le vol d'Air Canada prévu pour le lundi puisse atterrir. Quoique ce vol-là ne pourra pas atterrir, ne pourra pas amener de passagers, puisque même les membres de l'équipage ne peuvent quitter l'avion pour se reposer. Donc, c'est un vol vide avec seulement des membres de l'équipage qui vont pouvoir ramener l'avion et les membres de l'équipage qui sont restés au Maroc. Donc, ce premier vol-là, on obtient des autorisations pour qu'il puisse décoller. Et Air Canada nous annonce qu'on ne pourra plus organiser d'autres vols puisque notre équipage n'a pas le temps de se reposer entre les deux vols. Donc, cette option-là n'existe plus. Alors, on commence les négociations avec Royal Air Maroc. Imaginez un peu aussi les Canadiens dans quel état d'esprit ils sont. Ils n'ont plus aucun moyen de revenir à la maison. Ils s'attendent à ce que l'ambassade organise des vols pour pouvoir les rapatrier, puisque c'est le seul moyen possible. Dès le lundi, on renvoie nos appels vers le centre d'urgence puisqu'on est incapable de gérer le volume d'appels. On a reçu cette semaine-là plus de 2000 courriels et cette semaine-là, plus de 500 personnes se sont présentées à l'ambassade pour être capable d'avoir eu des réponses sur qu'est-ce que vous faites pour nous, comment vous nous ramenez à la maison. À ce moment-là, le gouvernement n'avait pas annoncé que nous allions organiser des vols de rapatriement. Donc, la pression et la tension étaient très intenses. Vous vous souviendrez que les gens étaient très vocaux dans les médias aussi au Canada. Donc, la pression était là. Jeudi, la journée où les vols spéciaux devaient être suspendus, toujours rien, mais le deadline est repoussé au dimanche. Le vendredi, l'état sanitaire d'urgence est décrété au Maroc. Les gens n'ont plus le droit de se déplacer à moins d'avoir une autorisation spéciale. Les restaurants sont fermés et on s'attend à ce que les hôtels soient fermés également. Alors là, les gens sont littéralement en panique parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est beaucoup des touristes qui n'ont aucun lien avec le Maroc autre que d'être ici en vacances, qui n'ont pas de famille et qui doivent rentrer. Leur vie est au Canada. Donc, c'est cette journée-là, le vendredi, qu'on obtient l'autorisation d'Affaires mondiales d'organiser un vol pour le lendemain. À 22 heures, on annonce le vol. Une heure après, le vol est complètement vendu. Et puis, voici, il faut gérer la frustration de ces gens-là. Le lendemain, moi, j'étais à l'aéroport pour aider à l'embarquement et pour offrir des services consulaires. On a des gens qui sont pas contents parce qu'ils sont pris, ils n'ont pas moyen de revenir. Puis, malheureusement, on veut tellement les aider, mais on ne peut pas leur garantir qu'il y aura d'autres vols de rapatriement parce qu'on a un deadline qui est cette journée-là, il n'y a plus de vols après ça et on n'a aucune garantie qu'on pourra organiser d'autres vols. Heureusement, notre ministre des Affaires étrangères était venu au Maroc quelques mois auparavant et il avait développé une très grande complicité avec le ministre des Affaires étrangères. On réussit à avoir l'autorisation d'organiser d'autres vols alors que tous les vols sont suspendus. On annonce un deuxième vol de rapatriement. Très content de pouvoir aider encore plus de gens, puis enfin pouvoir avancer. 45 minutes après l'annonce du vol, le vol est plein. Donc, là, on se déplace également le lendemain pour accueillir les gens, mais au même moment, on peut annoncer le troisième vol de rapatriement, ce qui a fait que le deuxième vol a été beaucoup plus calme à l'aéroport et puis les gens beaucoup plus satisfaits. Le troisième vol a lieu. J'ai la chance de pouvoir revenir au Canada sur ce vol et rejoindre ma famille. Donc, on fait l'embarquement, on veut s'assurer qu'il n'y a plus aucun siège de vide sur ce vol-là. Donc, on contacte nos collègues mexicains et américains qui nous ont aidés à rapatrier des citoyens canadiens sur leur propre vol pour leur dire, écoutez, envoyez vos personnes, les gens qui attendent pour un vol en stand-by. Si à la dernière minute, il reste des places sur le vol, une fois que tous les Canadiens et les résidents permanents seront embarqués et que tout le monde est en place, on pourra offrir ces vols-là à ces gens-là. Donc, effectivement, peut-être une heure avant l'embarquement, alors qu'on fait des appels, on aide les gens sur place avec leur carte de crédit. On a des gens à l'ambassade qui font des appels parce qu'on a un code spécial pour vendre ces billets-là parce qu'on veut que le vol soit plein, 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 plein. On réussit à vendre les billets, tout va bien, je pars pour l'avion en imaginant que tout était sous contrôle et que c'était la fin. Je m'assois dans mon siège, tout va bien, je suis en contact via WhatsApp avec l'équipe qui est toujours à l'embarquement. Pour se rendre compte que non, il y a un problème. Ces gens-là ne peuvent pas embarquer, ils sont retenus à l'embarquement. Alors, l'ambassadrice va voir le pilote, trouve une solution, va voir le pilote. Alors, il y a un problème, il faut trouver une solution. Part avec le pilote qui, après avoir consulté son équipage, demande l'autorisation de retarder un peu le départ pour qu'on puisse s'assurer que ces gens-là puissent embarquer. Je pars avec le pilote dans l'aéroport, on parle à Swissport, on se rend à la sécurité, on parle à tout le monde pour leur dire « ces gens-là doivent embarquer, le gouvernement est d'accord, tout est sous contrôle ». Ils réussissent par finir. Je les vois arriver à la sécurité. Au même moment, j'entends l'équipe qui est restée de l'ambassade, qui est restée de l'autre côté, crier « Victoire! On y est, on y est, on y arrive! » Ils passent la sécurité. Je cours avec le pilote et les passagers jusqu'à l'avion. On s'assoit. C'est bon, on peut partir. Non, l'avion avance et l'avion recule. C'était surréaliste. parce que on a un cas consulaire dans l'avion, quelqu'un qui se sentait pas bien, qui doit quitter l'avion. On raccompagne cette personne-là à la sortie. J'écris à mes collègues qui sont restés, qui sont toujours à l'aéroport, attendez pour voir s'il y a besoin d'accompagnement. Finalement, le vol réussit par atterrir. 140 heures de travail plus tard, 10 jours hyper intenses, dont je me souviendrai toute ma vie. Et puis, mon petit moment magique, c'est que le pilote qui a effectué ce vol-là d'Air Canada, c'était son dernier vol avant qu'il puisse prendre sa retraite après 40 ans de service. C'était quelqu'un de tellement dédié, tellement fier de pouvoir accomplir ce dernier vol-là pour, comme il le disait lui-même, accompagner son monde de retour au Canada et pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse retourner. Donc, vraiment des moments très, très intenses, mais très, très satisfaisants.
J'imagine. Maybe, Brent, back to you. You'd mentioned in your earlier remarks a couple of things, sort of the use of exercises, but also just what this was as kind of a learning opportunity, not just for your team, but for the department generally. What were the major lessons you take from, like, what do we do better now as a result of the experience you went through?
You know, there's a couple approaches to kind of looking at that question. I think we now have better tools and systems and mechanisms that enable us. It's everything from having the remote work capacity, which is a bit of a godsend if something really critical happens. We don't need access to 125 Sussex. We can work from home. It's other sort of technical pieces that are also really important. For example, the flight model. So the flight model that we had with the private sector companies, the commercially facilitated flights, this is something that will always stay in our toolkit because it was a great innovation and it was immensely successful. But I think that there's other things that are really, really valuable. I think we got a really good lesson in resilience, for example. I think people now understand that emergency response isn't a C-branch responsibility, it's a departmental responsibility. And I think that's important. I think that in the area of resilience, we went to 24/7 operations in the EWRC. And I think it's human nature that when you have a file that you're really invested in, that you don't want to pass your file to someone else. But if you're 24/7, you have to do that, or you don't get to sleep, or you don't get to see your loved ones at home or whatever. And we really learned and developed the system so that we could pass that file on to other people so that we could achieve amazing results in this repatriation operation, but at the same time have a semblance of work-life balance and really look out for the wellness of ourselves and our employees. And arguably, that was one of the biggest learnings that we had in the EWRC was how to kind of do this in a 24/7 operation and really bring home that wellness piece for us.
That's really good. It's a difficult question, this lessons learned for a once in a generation or a once in a lifetime event. Mm-hmm. And I think it's something, you know, that we're asking ourselves across a whole range of issues from vaccine procurement to border openings and closings right through to our repatriation efforts. I think that's great. Well, we're coming close to a close, so maybe a final question for both of you. And that's whether or not there's any kind of final thoughts that you'd like to leave the GAC audience on either the perspective from headquarters or the perspective from the field on what the experience has meant for you.
From my perspective, I just would like to acknowledge that this repatriation operation, we couldn't have done it without the collaboration, the cooperation of so many people across the department, both at headquarters and at mission. I'm hoping that we'll be able to leverage that in the coming not too distant future to bring people into a bit of an emergency management community, or at least those who are interested in doing so. But my immense respect and thanks to everyone for stepping up to the plate when it was needed. It was everyone else that made this happen.
Puis du côté des missions, je pense que le commentaire de Brent s'applique également parce que c'est pas seulement les employés canadiens qui ont contribué, mais tous les employés locaux qui n'avaient pas nécessairement fait de consulaire auparavant, qui ont aussi contribué à répondre à des appels, à fournir des lettres à octroyer des prêts, à appeler les gens. Mais je vous rappelle qu'on était à la mi-mars, donc c'est aussi la fin d'année fiscale que mes employés ont dû gérer parce qu'on a deux programmes, les services communs et le consulaire, qui ont dû gérer en autonomie puisqu'on n'était pas disponible pour aider avec ça. Tout l'aspect logistique aussi, l'appui logistique qui a été fourni par les employés locaux, les gens de la sécurité qui se sont assurés qu'on demeure en sécurité, qui ont répondu aux Canadiens en détresse qui voulaient des réponses et qui se présentaient à la mission, les gens qui sont venus avec nous à l'aéroport pour nous aider dans la langue locale, la liste est longue, les gens qui ont aidé à négocier avec les compagnies aériennes, avec les autorités locales, qui ont monitoré les médias sociaux, qui ont fourni des réponses. On avait 10 jours pour organiser tout ça et puis ça a définitivement été un effort collectif. Autrement, on n'y serait pas arrivé. Puis on était en pandémie, on connaissait très peu le virus à ce moment-là. On ne savait pas trop comment ça allait évoluer, comment se protéger. On ne savait rien de tout ça, mais personne n'a hésité à se présenter au travail, à être là tous les jours, à faire des longues journées pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer à la maison. Puis le sentiment de satisfaction, j'aimerais pouvoir le partager. Les sourires qu'on a vus, les remerciements avec tout le monde qui ont contribué à cet effort-là, parce que c'est vraiment quelque chose de spécial qui va rester avec moi pour longtemps, parce que comme fonctionnaire fédéral, des moments comme ça, on n'en vit pas tous les jours, puis c'est vraiment quelque chose de marquant. Puis de voir comment on peut faire une différence incroyable dans la vie des gens, c'est quelque chose de très précieux, puis je pense que je suis très, très fière et très fière de mon équipe, très fière de l'équipe de l'ambassade et très fière d'avoir pu contribuer à ces grands moments-là.
Oh, mais merci beaucoup, Brent et Anne-Marie. Merci pour avoir pris le temps de partager vos expériences. Un événement qui a touché l'AMC au complet, bien sûr. Comme on sait très bien, les services consulaires, c'est la place où notre ministère touche monsieur, madame, tout le monde canadien. Et c'est une des places les plus importantes pour le ministère en termes de nos relations internationales. Donc, huge thank you. I would like to wish everybody on behalf of the deputies a fantastic National Public Service Week. We're all looking forward to the plaque that's going to be revealed for the efforts of the entire department in this space. And this podcast is actually going to be a part of that memory as well. So thank you for taking the time for doing this with us.
Merci.
Thank you so much. All best wishes.
Thank you for listening, and we look forward to you joining us for future episodes of The GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada. Don't forget to join the conversation online using hashtag GACFiles.
Merci d'avoir écouté le balado, et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour les épisodes futurs des dossiers d'AMC. Un balado sur les gens, les enjeux et les idées qui animent Affaires mondiales Canada. N'oubliez pas de vous joindre à la conversation en ligne en utilisant le hashtag dossier d'AMC.
If you have any feedback or suggestions for future topics or guests, please send us an email at extott-ldce@international.gc.ca.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant des sujets futurs ou des nouveaux invités, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse extott-ldce@commercialinternational.gc.ca.